RTI Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, animée par Alain Marty, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, ETI Radio, TV à mes côtés pour co-animer cette émission. Arnaud Lagrolet, qui est directeur des relations investisseurs de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour Arnaud.
Bonjour Alain.
Ainsi qu'Antoine de Villepillière, associé du groupe EPSA. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Pierre Fleck, qui est président de France Bonhomme. Bonjour Pierre.
Bonjour à tous.
Alors racontez-nous. Vous êtes né en 1965, diplômé de l'IAE et après votre coopération chez Alcatel, vous avez rejoint Valeo, c'était en 1991 et vous avez notamment travaillé sous les ordres d'un grand monsieur, Noël Goutard. Né en 1975, diplômé de l'IAE et après votre coopération chez Alcatel, vous êtes arrivé chez Veolia, c'était en 1991 et vous avez eu la chance de côtoyer pendant quelques années un grand patron, Noël Goutard.
Oui, j'ai eu cette chance de pouvoir... travailler assez rapidement avec ce qu'on appelle des grands capitaines d'industrie, des grands patrons. Alors N-2 à l'époque, j'étais très jeune, mais je me suis retrouvé patron de division et à l'école Goutard, que l'on connaît tous, donc belle expérience.
Et ensuite, donc, c'était une grande belle expérience avec un Italien, un certain Sergio chez Fiat.
Un Italo-Américain, absolument, un petit génie, un fou génial, comme on dit, est une expérience absolument extraordinaire. Vous découvrez le monde de l'impossible qui est devenu possible et une expérience fantastique. Ouais,
tout avec des belles marques aussi au sein du groupe, on va les rappeler d'ailleurs. Les
avec marques. De très très belles marques aujourd'hui qui sont un peu noyées au sein d'autres marques, mais avec de très très belles marques, tout à fait.
Alors après, entre l'Italie, l'Espagne, la Belgique et l'Allemagne, vous avez vécu, Pierre, plus de temps à l'étranger qu'en France.
Oui, je faisais le calcul.
Vous n'aimez pas les Français ou...
J'ai un peu de mal. Parfois, je dis, mes équipes me disent, mais je cherche mes mots en français, mais on y arrive, donc ça va, vous me comprenez là.
Et avec le recul, le management à la française.
Il est latin, il est Europe du Sud, il est très hiérarchique, il est très analytique, il est moins décisionnel que l'anglo-saxon, il est moins rapide, le processus décisionnel est assez différent. Ouais.
Bon, il y a quand même des points positifs.
Très positifs, la créativité, un peu de désorganisation, ça peut aider de temps en temps, et puis le côté sympathique des latins.
Donc vous avez rejoint France Bonhomme en 2018, c'est ça ?
Oui.
Un mot peut-être sur l'historique de l'entreprise et les différents métiers ?
Une très belle ETI française, on va fêter nos 90 ans en 2025, donc 1935, qui est connue sur la place publique, privée, fonds d'investissement, et qui est leader distribution aujourd'hui de la distribution omnicanale de tout ce qui est matériaux et solutions pour infrastructures et réseaux. Une belle ETI de plus de... essentiellement française.
D'accord.
Puisque sur les 2400 personnes, on en a près de 2200 en France. Le reste est en Espagne, une belle filiale espagnole qui se développe. Et surtout, il y a un ancrage territorial très fort, puisque nous avons près de plus de 380 points de vente, donc plutôt des petits points de vente, mais donc très implantés sociétalement, sociologiquement, économiquement dans les régions.
Arnaud.
Pierre, une question. Vous êtes patron donc, d'un des acteurs majeurs de la distribution spécialisée en travaux publics. Comment vous abordez les questions d'innovation et d'impact ? Parce qu'aujourd'hui, quand on pense travaux publics, on pense par exemple à des machines qui fonctionnent au diesel, qui vont pomper de l'eau, qui vont apporter de l'énergie. Est-ce que tout ça, c'est très durable ?
Alors, c'est très durable et ça le devient de plus en plus. Déjà, on est sur des secteurs, des sous-segments du travaux publics. Donc, travaux publics, c'est très large. Hein. On est sur des segments comme l'adduction d'eau potable, comme la gestion des eaux usées, eaux pluviales. Enfin, je ne vais pas vous embêter avec plus de détails. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, ce que demandent vos clients, c'est justement de la durabilité. Ils demandent, par exemple, beaucoup de recyclabilité. Donc, la notion de recyclable est un sujet qui est extrêmement clé pour nos gros clients, que ce soit ce qu'on appelle les très grands comptes, que vous connaissez, des Vinci, des Bouygues, FH ou autres, que ce soit également des petits maçons ou autres. Donc, c'est au cœur du sujet et ça devient extrêmement concret et réel.
Alors, justement, pour nos auditeurs, vous nous donneriez quelques exemples ?
Oui, absolument. Vous avez poussé par des lois européennes, un tube plastique de PE ou de PVC, vous aurez une obligation de produire des produits qui vont être à 80, 90%, voire 100% recyclables d'ici 2025-2026, c'est en discussion. Donc ça, c'est extrêmement changeant.
Merci. Et alors, en tant que cette fois-ci patron, je m'adresse aux distributeurs. Parmi nos auditeurs, on a bien sûr des patrons d'ETI ou de PME qui font de la distribution. Vous êtes à 20% de multicanal. Si on tire le trait, vous montez à combien dans 5 ans, 10 ans ?
Alors, je veux doubler très rapidement d'ici 2024, prendre 10 points par an. Donc, on est passé de...
10 points par an ?
On est passé de 0 à 20 si j'enlève l'année Covid en 3 ans. Il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à 40%. Donc c'est au moins 40% d'ici. Donc je pense qu'il faut, c'est ce que j'appelle un peu le modèle américain, où la plupart des boîtes B2B spécialisées aux US sont complètement digitalisées. Il n'y a aucune raison, quel que soit le secteur et qu'on prenne autre, qu'on n'arrive pas à digitaliser. Donc il n'y a pas de limite. Ce qu'il faut, c'est bien gérer les conséquences sur votre business, qu'écouter vos clients. Mais en effet, on a très fortes ambitions là-dessus.
Antoine ?
Alors, moi j'ai une première question. On dit que quand le bâtiment va, tout va. Vous n'êtes pas très loin du bâtiment et votre métier, en quelque sorte, c'est une mesure directe de l'activité sur ce marché-là. Est-ce que vous anticipez des évolutions positives ? Est-ce qu'il y a des signaux d'alerte ? Comment vous voyez évoluer le marché en fonction, finalement, de vos ventes ?
Ouais. On est par nature, je pense, comme tout patron de ETI, assez optimiste. Donc, je reste optimiste. Je pense que on est sur des segments, nous, encore une fois, on est sur des sous-segments. J'en ai cité deux tout à l'heure, qui structurellement sont ou vont être en croissance. Donc, vous avez un peu d'up and down à gérer, mais structurellement, on va être sur des sujets en croissance. Donc, oui, vous avez raison, ça reflète un peu l'économie, mais vous êtes dans l'adduction d'eau potable. En France, vous avez 1,5 litre qui fuit pour arriver chez vous ou dans des bureaux. Il va falloir rénover, c'est très obsolète. Donc, structurellement, ça va se faire.
Ok. Antoine ?
Autre question, vous avez lancé une plateforme digitale pour le recours à vos services, ou en tout cas l'achat de vos produits. Quelle expérience vous retirez de ce chantier ? C'est des plateformes qui sont aujourd'hui très plébiscitées, notamment par les grands groupes. Quels ont été les grands écueils, les grandes victoires d'un chantier comme ça ?
Ah, plusieurs questions. La première, c'est la partie un peu de change, bien que change management est un mot que j'aime pas beaucoup, mais c'est vrai que ça change beaucoup d'entreprises. Ça change en termes d'organisation, c'est en termes de comportement, d'incentive. Donc, c'est une façon de transformer, une façon merveilleuse de pouvoir transformer l'entreprise. Et encore une fois, je repars des clients. Pour les clients, c'est une façon aussi de faire de la productivité. Donc, les notions de productivité sont des sujets que les clients aiment bien. Donc, quand vous associez la notion de productivité avec la notion de transformation d'entreprise, il y a un bon cocktail qui est à gérer et c'est comme ça qu'on l'adresse. Ouais.
Merci. Vous avez vécu en Italie et également en Allemagne, Claire. On parle beaucoup des tissus des ETI dans ces deux pays. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous avez vécu ?
Écoutez, très bien, et je suis ravi d'ailleurs d'être là, je vous remercie. Moi, je me souviens qu'en Allemagne, vous connaissez l'Allemagne, moi j'ai vécu deux fois là-bas, c'est ma dernière expérience là, avant de venir en France. Les patrons d'OTI ont une reconnaissance, non pas qu'on ait besoin de reconnaissance particulière ici, au sens où il faut le démontrer, mais c'est vrai qu'un patron d'OTI en Allemagne est aussi, voire plus reconnu, entre guillemets, qu'un patron du DAX allemand. Le poids, les étudiants qui travaillent, et contrairement à ce qu'on croit, les étudiants allemands n'ont pas vocation de passer de Berlin à Munich, qui reste beaucoup dans la région. Donc toutes les belles ETI se battent pour avoir les meilleurs étudiants, donc vous êtes une logique extrêmement différente. Je ne sais pas s'il y a un modèle qui est meilleur que l'autre. Il y a des caractéristiques, c'est qu'il y a une reconnaissance et un poids des ETI où sur toute la chaîne, c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire que vous êtes appelé par des ministres, vous êtes impliqué dans des décisions, vous êtes le poids des entreprises allemandes dans les ETI en Allemagne et n'a rien à voir avec ce qui se passe en France.
Mmh. Et parfois, on considère qu'on parle trop des startups et pas assez des ETI en France. C'est la faute à qui, d'ailleurs ?
Je ne sais pas s'il y a un fautif là-dessus. Je pense qu'il faut pousser les deux. Les startups sont créatrices d'emplois. On est dans une révolution technologique, numérique, donc il faut y aller. Je pense que les ETI, mais c'est une banalité, ce que j'ai manqué cruellement en France, à nous de les développer, à nous de créer de l'emploi. Elles sont créatrices nettes d'emplois, donc on est au moins sur un beau créneau.
Il y a une guerre des talents dans vos métiers ou pas ?
Oui, bien sûr, oui, il y a une guerre de talents. Je pense qu'on a beaucoup d'entre nous. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de moi. Je cherche aujourd'hui 80 personnes et que j'ai du mal à recruter.
80 postes ouverts,
pour 80 postes ouverts, absolument. À nous de nous également d'offrir des parcours intéressants, à nous d'aller chercher les talents. Mais c'est vrai qu'on recrute beaucoup, oui, on cherche beaucoup de monde.
L'avenir de la zone euro, cette zone euro, elle va venir finir comment ? En tout cas, évoluer comment plutôt ?
Là, je pense que, encore une fois, j'ai une nature optimiste, donc on va être très prudent, mais je pense que les taux d'intérêt vont augmenter. Je pense que, vous l'avez vu, les PIB vont ralentir. Je pense que l'Allemagne va rentrer en récession. Elle est presque habituée, entre guillemets. C'est très cyclique, donc je ne suis pas inquiet sur le fond. C'est plus des phénomènes exogènes à 1500 km d'ici qui sont plutôt gênants qu'autre chose. C'est l'inquiétude aujourd'hui qui, en tout cas, moi, me concerne.
Pierre, le plus beau métier du monde, c'est quoi ? C'est patron d'une belle ETI ou chirurgien ?
Comme je suis incapable de faire une piqûre à qui que ce soit, je pense que le patron d'ETI est plus simple et j'adore ce que je fais, j'adore ce métier, absolument, donc il n'y a pas de doute. Ouais.
Et alors, côté bon vin, aucun rapport avec le sang d'ailleurs, la Bourgogne, ça vous sied ?
Je suis né là-bas, donc je suis très prudent parce que j'ai cru comprendre que c'était une de vos expertises. Mais étant né à Chalon-sur-Saône, un petit peu là-bas, oui, des Puligny-Montrachet, des Pommard, oui, absolument.
Oh, franchement, il y a pire dans la vie, n'est-ce pas, messieurs, Arnaud et Antoine, quoi. Et alors, côté voyage, donc vous avez beaucoup, beaucoup bourlingué, mais vous avez un coup de cœur pour Barcelone.
Alors oui, ayant vécu deux fois là-bas, c'est vrai que c'est une ville que j'adore en tant que ville. En tant que pays, c'est l'Italie. En tant que ville, Barcelone, où j'y passe beaucoup de temps. Ouais.
Et pour terminer, comment on fait pour avoir du temps pour jouer au tennis et également pratiquer la natation, par exemple, en ayant 6 enfants?
Bah écoutez, il y a des incontournables, il y a des passages, des dîners obligés, il y a des équilibres, et ça fait partie de l'équilibre, de mon équilibre, donc on le gère bien, on les voit jamais assez, mais ça fait partie de mon équilibre.
Bon, pour terminer, Pierre, les 3 premières mesures que notre nouveau président doit prendre en faveur des ETI, quelles sont-elles?
Je dois être très mauvais en politique et j'irai certainement pas sur ce terrain-là, chacun son domaine. Non, je crois que, regardons ce qui se passe aux ETI, décentraliser, j'insiste, je vous en ai déjà plus que 3. Reconnaissance, il faut une véritable reconnaissance, et puis il faut un système... qui accompagne, ça se prépare, les patrons d'ETI, ça se développe, et il faut que les gens aient envie de bosser dans les ETI. Donc c'est un système de l'éducation jusqu'au système universitaire.
Merci beaucoup Pierre, merci également à vous Arnaud et Antoine. Fin de ce numéro de ETI Radio, retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.